Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Dans le film allemand 303 de Hans Weingartner, le personnage de Jule, une jeune femme de 24 ans, décide d'entreprendre un voyage vers l'Espagne dans sa camionnette 303. Elle prend en stop Jan, un étudiant allemand en sciences politiques. Le dispositif du film est assez simple. On voit l'intérieur de la camionnette, les paysages qui défilent, leurs conversations, les moments de silence dans l'habitacle. Lentement, au fil de la route, ils tombent amoureux. Au cinéma, quand une histoire d'amour est bien jouée, que l'alchimie entre les acteurs est évidente, elle devient presque palpable. Jan et Jule, en l'occurrence, j'ai l'impression que leur attirance et les sentiments qu'ils développent ont une qualité physique, matérielle, qu'ils existent tellement fort qu'on pourrait presque les toucher. Cette semaine dans Passage, une histoire d'amour tout aussi palpable, qui est une histoire d'amitié, avec la tendresse propre à ceux qui ont grandi ensemble et qui reconnaissent, dans leur mimique d'adulte, les bouilles de leurs 11 ans. Romane et Marco, au micro d'Antoine Bonnet. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
Marco sort à ses premières gardes à vue pour des bêtises mineures. Et moi, je me rends compte que les gardes à vue, c'est, pour moi, c'est un truc de fou. Et lui, le prend avec le sourire, il dit « Ouais, là, normal, j'étais en garde à vue ce week-end. » Et c'est mon meilleur ami, mais je me dis « Putain, mais c'est quoi cette réalité, quoi ?» C'est fou d'avoir deux parcours complètement différents. Je nais en 1991 à Paris. À ce moment-là, j'habite dans le 20e arrondissement, rue Saint-Blaise. J'habite avec mon frère, qui a 4 ans de plus, ma mère et mon père, qui est souvent en déplacement parce qu'à l'époque, il faisait son internat de médecine et donc il était très pris. Donc à 6 ans, on déménage dans le Loir-et-Cher, dans un petit village de 2000 habitants. Malheureusement, et c'est un peu dur à dire, mais à ce moment-là, mes parents divorcent. Ce qui est très bien aussi, parce que vivre dans un environnement un peu conflictuel, c'est pas facile. Et à ce moment-là, on décide de repartir à Paris. Donc cette fois, j'emmène dans mes bagages ma mère et mon frère, et mon père reste dans Loir-et-Cher. Quand j'arrive à Paris, c'est fini les cabanes. Mon seul espace vert, c'est le petit parc en bas de chez moi. Et le bois de Vincennes, qui me paraît loin à l'époque, parce que c'est de l'autre côté du périph, et de toute façon, j'ai pas le droit d'y aller tout seul. Parce que ma mère est complètement paniquée par le nouvel environnement. dans le Loir-et-Cher, quand on est dans un petit village comme ça, le fait que je venais de Paris, tout le monde m'appelait le Parisien, on pensait que j'avais appris à jouer au foot au Paris Saint-Germain. Et j'arrive à Paris, j'étais plus personne, j'étais le campagnard. Donc je suis passé, oui, du Parisien qui vivait dans l'esprit des autres, au pied de la Tour Eiffel, au Bouzeux. Petit changement de vie quand même. Donc, une nouvelle partie de ma vie débute. Je commence en septembre dans une école juste à côté du périph, dans le 12e arrondissement, Porte de Vincennes, école La Mauricière. Tout est chamboulé parce que c'est pas du tout les mêmes personnes. Il y a une diversité de culture, de milieu social. J'ai pas les codes du tout. Dans les premiers jours, le ballon en mousse arrive à mes pieds. Je le prends et je me suis fait incendié par des gens, mais je me rendais pas compte à l'époque que j'interrompais une partie de foot. Rebelote pendant des semaines, je suis un peu tout seul, je fais un peu semblant de jouer. Grâce au foot aussi, j'arrive à m'intégrer. Alors que j'étais l'un des meilleurs au foot, et ça peut paraître bizarre dans le Loir-et-Cher, je me retrouve le plus nul. J'étais cantonné à la place de gardien. Et Mamadou Sakho, qui a joué au Paris Saint-Germain et en équipe de France, a dit que j'étais très fort en tant que goal. Donc, c'était ma place dans les récréations. J'étais gardien, quoi. Donc, j'arrive en CM1. Très vite, je me fais des bons potes. CM2, c'est vraiment l'âge de la maturité, une année que j'apprécie beaucoup parce que je me sens à l'aise dans ce nouvel univers. On fête un anniversaire dans la résidence où j'habite. Beaucoup des personnes de l'école sont invitées, en majorité des garçons. On va dans le parc, qui est aussi mon parc, en bas de la résidence. Sur la table d'à côté, il y avait des tables de ping-pong. Quelqu'un qui s'appelle Damien, qui était un peu connu dans le quartier parce qu'il était assez nerveux, il était sanguin. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré Marco.
Je vais avec un pote, Damien, on chauffe, on décide d'aller faire un ping-pong dans un des squares qui est à côté de chez moi. On décide de faire un ping-pong et il faut savoir que Damien, c'est un rageux.
On les connaissait de loin, parce que tout le monde se connaît dans un quartier, c'est un peu une vie de village.
Et en fait, on joue au ping-pong, je gagne, et il commence à craquer, il jette sa raquette, et malheureusement, la raquette, elle fait un rebond sur la table, et voilà, elle tombe sur moi.
On les charrie un petit peu.
On commence à tourner la tête, moi sur ma gauche, Damien sur la droite, on commence à voir en fait qu'il y a 4-5 mecs qui se foutent de nos gueules. Et sur le coup, ça nous fait péter un câble. On se demande, mais c'est qui eux ?
La situation s'envenime.
On décide de les courser.
Bon, on prend un petit peu peur parce que Damien essaie de nous frapper avec une raquette de ping-pong et essaie de nous la lancer dessus.
Et ça finit devant une porte de résidence où du coup il y en a un qui a décidé de bloquer la porte. Et bref, ça fait une sorte d'histoire où en gros on leur dit on va vous retrouver, on a retenu vos têtes, vous allez voir les gars, on se moque pas comme ça des gens, vous allez voir les mecs.
À l'époque, ça c'est vraiment une embrouille qui marque.
Et qu'il y a un des gars qui nous dit arrêtez, c'est mon anniversaire, arrêtez de faire ça. Et en fait, je commence à bien regarder les têtes et je vois que c'est des mecs qui sont dans l'autre école. C'est pas des mecs qui sortent de nulle part, en fait. Ils sont juste dans la mixte B et on peut les retrouver pour le coup. On sait qui c'est, quoi. On va savoir qui c'est très rapidement.
Cette école, la Mauricière, on partageait la cantine avec une autre partie de l'école. Donc, il y avait la Mauricière A et la B. Et tous les midis, bah, on voyait ce Marco qui mangeait aussi à la cantine. Et c'était une espèce de guerre froide. On l'insultait tous les jours quasiment. Et c'était pareil. Parce que lui, il avait moins d'amis parce qu'il avait déjà redoublé son CM2 à l'époque.
Après ça, je sais que le lundi, je suis à la cantine. Et je croise à la cantine, du coup, ces personnes. Et là s'engage une scène un petit peu de mafieux de bas étage. Je prends mon plateau, je me dirige vers une table où il y a des potes. Je me fais intercepter et on me dit « viens t'asseoir ». Et je vois que c'est trois des quatre mecs en question qu'on a coursé. Je fais « ok ». On me libère la place, je me retrouve entre deux mecs et il y a un mec en face de moi qui décide de parler. On me dit « ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Enfin, j'ai plus trop de souvenirs de ça. Mais on commence à parler et c'est à base de « tu vas voir, tu vas voir ». Enfin bref, c'est des embrouilles à deux balles, quoi. Mais c'est « tu vas voir ce que je vais te faire à la sortie, on s'est quitté, patati patata ». C'est des coups de pression d'enfant, quoi. Écarter les plateaux comme si on était limite en prison. Il y a le boss qui veut me parler. Et moi, il y a les trois quarts de mes potes qui sont en sixième. Moi, je redouble. J'avais clairement pas peur. Il y a certains, ils venaient me chercher à la sortie. Enfin bref, j'étais pas dans un truc, ok, ils sont là devant moi, mais il va rien m'arriver, je le sais très bien. Et je sais pas, je trouvais ça très drôle, cette scène.
Fin CM2, on se sépare et on se retrouve tous, notre bande de potes. La plupart, on va au collège du quartier. Donc c'est un collège qui est juste à côté, toujours le long du périph. Donc j'avais peur aussi parce que je savais que Marco allait être dans ce collège-là et je voulais surtout ne pas être avec lui en classe parce que à ce moment-là, j'ai un seul ennemi dans ma vie et c'est Marco.
Le premier jour de collège, il est c'est légendaire. Déjà, ma mère travaille, donc du coup, je me pointe seul. Enfin, pas vraiment seul, je suis accompagné d'un pote qui est en cinquième déjà. Il m'accompagne à l'école, moi je reviens de vacances, débardeur. Avec une pochette sous le bras, même pas de cartable, et en short, vraiment en vacances quoi, toujours. Hein. J'arrive à ce moment-là dans un esprit de pas d'insolence, mais en fait, je connais quasiment tout le monde dans le collège. C'est que des gens plus grands que moi, mais je les connais parce que je traînais dehors, donc à ce moment-là, j'étais en confiance. On est censé attendre en fait que la directrice ou la CPE en fait nous appelle. On se met en ligne en fait et on va découvrir notre classe au fur et à mesure. Avec mon nom de famille Avramovic, je suis forcément appelé en premier. J'attends, je commence à scruter en fait toutes les personnes qu'il y a devant moi. Et je commence à repérer en fait deux trois têtes du coup avec lesquelles on a eu une petite embrouille. Et vient le moment où on commence à dire « Laurent qui Roman ?» Et je vois un mec s'approcher avec des lunettes, yeux bleus, venu avec sa maman. Et là, je commence à capter. Et là, c'est une scène un peu à la Billy Elliot, un peu à l'anglaise, ou un peu à la guerre des boutons même. Hein. C'est les regards qui s'échangent, la mère qui capte pas du tout ce moment-là. Les regards s'échangent et on est dans le défi en fait. C'est genre « Ah, t'es dans ma classe, tu vas voir ».
Je me rends compte que Marco a choisi allemand comme moi. Dans ce collège, on est une dizaine à avoir choisi allemand. Et ça veut dire qu'en fait, quand on choisit allemand, on est avec le même groupe de la sixième à la troisième.
Moi, je choisis l'allemand parce qu'on fait des voyages en Serbie, en car, avec ma mère. Et qu'il faut forcément passer par des pays, dont l'Allemagne. Et je me dis, pour être utile à ma mère, quand on passera dans ce pays, je vais prendre allemand, simplement. L'Espagne, malheureusement, n'y passe pas.
On se retrouve dans la classe. Marco, qui est venu sans sa maman, alors que la plupart des élèves étaient avec leurs parents. Lui, déjà un peu plus mature. Je le regarde, il était tout bronzé, petite houppette décolorée. Alors qu'il est brun, je me suis dit waouh, un phénomène.
À ce moment-là, je suis en train de couper la parole au professeur principal pour demander des questions sur la cantine ou sur des trucs vraiment futiles, en fait. Et je trouve la bonne idée de me dire, bah, j'ai faim, j'ai soif, je vais prendre des trucs au distributeur et je commence à prendre des chips, du coca devant les parents, des autres élèves. Et pour le coup, je vois les regards un peu médusés et se dire, c'est qui cet enfant? Se dire, mais mon fils ou ma fille va jamais traîner avec ce gamin-là, c'est qui ce mec?
Donc, l'année commence et très vite, en fait, je partage beaucoup de cours avec lui. On est forcément à côté et il me fait très, très vite rigoler, en fait, parce que ses interventions, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, tout de suite, j'avais jamais rencontré une personne comme lui. Et en fait, dès que je le vois, rien que sa tête, je rigole, j'ai le sourire. Il y a des personnes comme ça qui donnent le sourire quand tu les vois, et Marco, ça fait partie de ces personnes-là.
À ce moment-là, je suis un élève assez moyen. J'écoutais bien les cours, j'essaie d'avoir les meilleures notes possibles à présenter à ma mère.
Moi, en cours, je lève jamais la main, je participe pas. Sur mes bulletins, il y a marqué « je m'en foutiste ». Peut mieux faire, mais je suis très studieux quand même. Je mets la pression en cours, j'essaie d'apprendre mes leçons. Quand il y a du travail à faire à la maison, j'essaie de bien le faire. Ma mère est aussi derrière moi pour m'aider. Et Marco, je me rends compte que c'est complètement différent. Il apprend pas forcément ses leçons. Il lève souvent la main en cours, il participe. L'exact opposé de moi en tant qu'élève, vraiment complètement différent, lui dissipé, je me souviens qu'il peut répondre au professeur, parler à voix haute, ça c'est quelque chose qui lui fait pas peur du tout.
Et Roman, pour le coup, c'est un élève brillant. Il peut faire des bêtises, des conneries, clairement. Il fait des conneries et en même temps, il peut sortir des bonnes notes. Et c'est chose qui m'hallucine. Je lui fais une remarque à ce moment-là. T'es marrant et t'as des bonnes notes. Comment c'est possible? Pour moi, c'est pas faisable. C'est pas cumulable. Soit on décide de faire des conneries ou soit on est brillant.
Donc, très vite, on devient très potes. On passe nos après-midi ensemble, à la sortie des cours. Le week-end, des fois, on se voit. Ça devient très, très vite un ami.
Et Roman, au fur et à mesure, ça devient un pote parce que je fais des conneries, je fais des trucs, des trucs de fou, hein. Trucs de fou en classe, et du coup, ça nous rapproche, c'est la bêtise qui nous a rapproché au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on a fait des conneries. Dont celle-là où on se retrouve convoqué par deux profs parce qu'en classe, on a commencé à écrire un rap sur une fille et c'est des phases toutes nazes. Hein. On va pas se mentir, elles sont toutes nazes, les phases. Hein. On se fait convoquer, ils nous réunissent et là, on commence à nous sortir les phrases par phrases et il y a un des lurons, en fait, qui commence à exploser de rire. Moi, j'essaie de me retenir, je me mords comme je peux mes lèvres. Et il y a Roman qui est impassible et qui fait juste des hochements de tête. L'air de dire « je comprends ». Et là, je le regarde, je me dis « mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il est en train de me lâcher là, qu'est-ce qu'il me fait là ? C'est un traître, c'est pas possible ». Et à ce moment-là, t'as la prof qui nous regarde et qui fait « mais vous avez pas honte, prenez exemple sur Roman ». Il a compris qu'il avait fait une erreur. Et au final... je crois qu'il a eu moins de sanctions que nous. Parce que nous, on est passé pour les guignols qui étaient encore fiers de leur bêtise. Voilà.
Les années s'enchaînent. Nous, on est toujours ensemble et de plus en plus proches avec Marco. Je me rends compte rapidement que c'est pas la même chose que moi à la maison. Quand j'arrive chez lui, c'est directement le voyage... Je me retrouve dans une ambiance de l'Est avec des icônes au mur, une cigarette dans le cendrier, voilà quoi, directement transporté dans les années 90 quoi. J'avais jamais rencontré une personne avec une relation comme ça avec sa maman, où ils mangeaient pas forcément ensemble, par exemple, alors que nous, c'était très structuré à la maison, on mangeait ensemble le midi, le soir, et eux, ils étaient un peu... Marco faisait sa vie, il mangeait à l'heure qu'il voulait, donc complètement différent de chez moi. Donc, après, en grandissant, donc plus vers la quatrième, on sort souvent sur la petite ceinture qui est juste à côté de chez nous, où là, c'est la liberté totale, c'est un endroit sans règles, sans loi, on peut passer des après-midi à lancer des pierres, à faire des feux de bombes de tag, enfin vraiment, on se fait poursuivre par des riverains, voilà, vraiment des petites bêtises de gamins, mais pour nous, c'est vraiment la liberté totale. Et notamment, il y avait aussi un terrain vague à côté, à l'époque... Moi, je tag pas, mais Marco tag et d'autres amis tag aussi. Et donc, on passe des après-midi là-bas à taguer, commencer à fumer des cigarettes. Donc, qui dit tag, ça implique de sortir aussi la nuit pour graffer. Et moi, je le sens directement que si je vais en garde à vue, ça va très mal se passer à la maison. Donc, la plupart du temps, je dis que ma mère ne veut pas que je sorte, mais c'est moi qui veut pas en fait sortir. Et Marco sort à ses premières gardes à vue pour des bêtises mineures. Et bah moi, je me rends compte que les gardes à vue, c'est, pour moi, c'est un truc de fou. Et lui le prend avec le sourire, il dit « Ouais, là, normal, j'étais en garde vue ce week-end. »
On est libre, on est simplement libre. On n'a pas conscience, par exemple, que graffer sur une camionnette, c'est pas bien. On se dit juste « on va poser un beau truc, ça va être bien, et ça va être super. » Et là, c'est ça, c'est les graffeurs qu'on rencontre sur la petite ceinture et autour, qui du coup nous mettent le pied à l'étrier, et voilà, et qui développent chez nous, avec un autre groupe d'amis, cette passion pour le graffiti et l'art en général.
Après le week-end et les vacances scolaires, on n'a pas grand-chose à faire. On va souvent, ma mère nous emmène au musée pour nous sortir parce qu'elle en a marre qu'on fasse strictement rien de nos journées. Donc, ma mère essaye de nous sortir de notre quotidien de branleur en fait, tout simplement. Et j'ai une très bonne relation avec sa mère. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que c'est une deuxième maman, quoi, parce que j'ai beaucoup d'affection pour elle et j'ai l'impression que c'est réciproque. Un jour, c'était au début du lycée, donc je sors de chez moi et par hasard, je croise la mère de Marco et elle me dit « Marco, c'est très grave ». Donc avec un petit accent chaleureux et slave, elle me dit « Marco, c'est très grave ce qui s'est passé ». Moi, je comprends pas. Je me dis qu'il est peut-être allé en garde à vue, mais que c'est rien de très méchant. Et je lui dis, ça va aller, Nena, t'inquiète. Et donc, on se sépare tranquillement. Je m'inquiète pas plus que ça. Et je reçois un appel quelques heures plus tard en me disant que Marco était tombé d'un toit et qu'il était à l'hôpital et que c'était très très grave.
On est avec un groupe de potes dans lequel Roman vient pas trop dans les délires. On sort, on fait la technoparade, c'est encore une sortie dans Paris. On connaît notre ville à ce moment-là. On suit du coup le défilé, on rigole, on se tape des barres, voilà, hein, simplement. Et sur la fin, on se pose sur un toit dans le 12e arrondissement pour faire la soirée. Moi, j'accompagne mes potes, pas de galère. C'est nos ambiances, quoi. Et on se tape des barres. Je pense qu'on fait du bruit. Et en gros, il y a un mec, enfin une ombre, qui apparaît et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On lui répond « On fait rien de grave. On va descendre. On s'en va tout de suite. » Il fait « Non, non, j'appelle la police. Bon, » ni une ni deux, on décide de descendre. Sauf que là, on est, je sais pas, une dizaine, hein. Et c'est les bulles de plexi, donc c'est un par un qu'on descend, il n'y a pas d'échelle. Hein, c'était à l'attraction déjà qu'on était monté à la force de nos bras. Donc là, c'est tu sautes, tu arrives dans les escaliers, tu te dépêches le plus vite possible. Mes potes descendent et je me retrouve nez à nez face au mec avec un marteau. J'étais l'avant-dernier. Nez à nez face à ce mec qui fait « Vas-y, viens, tu vas voir. » Et je décide du coup de refermer la bulle de plexi qui mène l'accès au toit. Je me retourne, je vois qu'il n'y a plus le dernier pote qui est avec moi. Et je vois en fait qu'il y a une des terrasses qui est collée à celle de ce mec qui veut nous casser la gueule. Et je commence à sauter sur la terrasse qui est collée à celle de notre... du mec menaçant, et je me suspends, je me laisse tomber sur la terrasse, et c'est pas, je me retrouve en fait à me faire une entorse. Et là, il y a le mec en fait qui, sa femme le prévient, il est là, il est sur la terrasse, viens voir. Moi, j'ai un t-shirt bariolé à ce moment-là, hein. Mais vraiment toutes les couleurs, donc je suis pas un cambrioleur, mais bon, ils sont persuadés que je vais faire le casse du siècle. Et il veut essayer de passer de l'autre côté, chez le voisin, il y arrive pas, il menace avec son marteau. Donc il décide de se barrer, je vois que les deux partent, ils veulent essayer de sonner chez le voisin. Donc moi, j'en profite, je me suspends, je fais ce que je peux, mais à un moment donné, avec mon poids, ma taille, mon âge, en fait, et la peur surtout, j'ai plus de force, et je lâche. Mais c'est pas volontaire, hein. C'est pas volontaire, je lâche parce que j'ai vraiment plus de force. Et j'ai de la chance parce que il y a le vide. Franchement, si c'était 2 mètres avant, je pense que je tombais à côté du toit, donc là, je faisais une chute, mais énorme, de plus de 25 mètres, je sais même pas. C'est... une crêpe, quoi. J'aurais fini en crêpe, hein. Pour le coup, je me laisse tomber, sauf que je tombe sur le toit, mais pas au bon endroit, là où il y a les bulles de plexiglas qui permettent l'accès. Donc là, je la traverse. J'ai un choc contre le sol, je roule. C'est une sorte de blackout de même pas une seconde. Et en fait, je sens que mon corps, il est en train de se prendre tous les escaliers, tout ce qu'il y a. En fait, j'arrive tellement vite que je suis en train de me cogner dans tous les sens. Et... je me retrouve assis avec la main bizarrement sur la rambarde et je suis assis et là je sens une sorte de douleur qui prend tout mon corps et ça commence par les pieds et ça monte et je sens plus rien en fait. Et là le seul truc que je dis à ce moment-là, c'est maman, et je peux pas m'arrêter de le dire. Et c'est vraiment toutes les secondes, et c'est un cri mais d'effroi. Donc moi je me dis que je vais mourir en fait à ce moment-là, et dans une cage d'escalier, dans un truc un peu miteux. Et en fait, il y a tout le monde qui arrive, bref. Il y a la police qui arrive, je me fais engueuler par la police. Mais pourquoi t'as sauté du toit ? Et le mec qui avait son marteau, mais qui arrive sans rien maintenant. Mais pourquoi tu as sauté ? Comme si rien ne s'était passé, il arrive tel un moine. Hein, je ne comprends pas cette situation. Je sais pas à ce moment-là en fait si je vais plus marcher, et je décide de pas prendre tout du côté positif, mais c'était je sais pas, j'étais déconnecté.
Ça lui arrive à une sortie où moi je suis pas, parce que je sentais que ces histoires de taguer la nuit, c'était pas forcément des bons sujets de sortie.
Et après, elle arrive à l'hôpital avec ma mère qui pète un câble et qui hallucine. Et ce médecin qui m'annonce, en prenant tout son temps, lui aussi, il était assez théâtral, il prend tout son temps pour dire « vous n'allez plus marcher pendant 6 mois ». Donc le temps qu'il a mis, en plus, ils m'ont mis des trucs un petit peu dans la gueule, hein, pour histoire que je ne sorte pas la douleur, mais genre ça a décuplé tous les trucs possibles. J'imaginais ma vie le temps d'une seconde, j'ai pété un câble, et quand il a dit 6 mois, là j'ai craqué, hein, j'ai voulu attraper par le col malgré mon âge. Je lui ai dit, mais faut le sortir de la pièce, je veux plus le voir, lui, c'est plus possible et tout. Hein.
Et donc on décide d'aller à l'hôpital. J'y vais avec deux copines, et j'arrive devant sa chambre, j'ouvre, et là Marco avait les jambes bandées intégralement, des pieds au niveau du ventre, et avec les larmes aux yeux, mais quand même le sourire en disant que ça va aller. Et c'était la première personne déjà que je vois hospitalisée. Je prends une vraie claque en me disant que une partie de notre insouciance venait de s'interrompre. Et donc, au début du lycée, moi, je rencontre beaucoup de nouvelles personnes, on change d'univers, et Marco est bloqué à l'hôpital pendant des mois et des mois. Je vais le voir dès que je peux. J'essaye de prendre de ses nouvelles par appel, par texto. Et je sens que lui vit une réalité qui est pas du tout la mienne, enfermé dans une chambre d'hôpital à rencontrer des personnes grièvement blessées. J'essaye de le tenir au courant de tout, de prendre de ses nouvelles pour pas qu'il s'effondre.
Et je me retrouve au final à Ourcq, dans un centre de rééducation où il y a que des, où la moyenne d'âge c'est 40 voire 50 ans. Et c'est des gens brisés par la vie, c'est pas des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Donc c'était enrichissant. C'est une très bonne expérience et ça m'a permis de voilà de grandir, je pense, que d'avoir été là-bas hein, et d'avoir rencontré surtout ces gens.
Donc voilà, les mois c'est cool. On reste tout le temps en contact. Lui, il me contacte par téléphone jusqu'à 4h, 5h du matin. Bon, forcément, moi, je réponds plus à cette heure-là parce que je suis couché et je veux être en forme le lendemain. Je fais plein de nouvelles rencontres, mais toujours dans un coin de ma tête, je pense à lui qui est isolé et seul à souffrir à l'hôpital. Donc, ça me fait un peu culpabiliser de rencontrer et de vivre des nouvelles choses. Mais j'attends avec impatience de pouvoir lui faire rencontrer ces nouvelles personnes, de revivre des moments avec lui, et je sais que ça va aller.
Au bout de, je pense, 6 mois, je sors de ce centre. Et, bah là, c'est un nouveau départ. Hein.
Donc, je vais le chercher à l'hôpital, enfin au centre de rééducation où il était. On prend le bus ensemble, on descend, il marche avec deux béquilles. Et je le vois hésiter dans la rue où on a toujours grandi, marcher vraiment comme un vieillard.
Je sais plus, j'ai des souvenirs où je suis en fauteuil roulant, où je sais plus, je me laisse aller, je laisse les bras alors que je suis en pleine descente et des potes qui pètent un câble, truc comme ça. Hein. Mais ouais, non, mais c'était ça. C'est, je reprends goût à la vie au fur et à mesure et vite de rattraper ce retard qui commence à s'accumuler avec mes amis, d'avancer aussi dans la vie. Voilà.
Fin terminale, je me mets avec Jessica, qui est dans ma classe. Donc, très vite, ça devient sérieux. Et Marco, à chaque fois qu'il y avait personne chez moi, je passais des soirées avec lui, je passe des soirées avec lui. Donc, il a l'habitude de s'installer chez moi le week-end. Ou en rentrant de soirée, et à partir du moment où je me mets avec Jessica, il n'existe plus, quoi. Donc, il n'existe plus. Le lit n'est plus libre pour lui. Donc, je me souviens qu'il le prend un peu mal. Il dit, ouais, c'est qui cette fille? Comment ça, elle prend ma place et tout? Mais bon, très vite, Jess et Marco sont devenus des très bons amis et tout est rentré dans l'ordre. Après le lycée, moi, je suis un peu perdu. Je m'oriente vers la fac de droit parce que j'avais dans un coin de ma tête que ça pouvait mener à la présidence de la République. En deuxième ou troisième année, j'ai la possibilité de faire un Erasmus en Pologne. Donc moi, j'ai des origines polonaises, donc je suis super content. Pendant cette période de 6 mois où je suis en Pologne, je continue à appeler Marco, on se Skype.
Et je sais qu'il y a un Skype, il m'envoie un message, c'est ça, il m'envoie un message, mais ça démarre pas par un Skype, c'est un premier message qui me dit, il m'est arrivé une petite dinguerie, gros, si ma mère t'appelle, rassure-la, dis-lui que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas dans, il m'a jamais envoyé de message comme ça, c'est quoi son délire là? Et il me dit, plus tard, on va faire un Skype, je vais t'expliquer. Et vient le moment tant attendu, et là, j'ai en face de moi Roman qui ne sait pas cadrer une webcam, donc du coup, j'ai l'impression d'avoir un détenu de Guantanamo, là, qui a ses 5 minutes de visio, avec une moitié de sa tête et le mur.
Tous les mercredis soirs, je vais dans une boîte où ils font, où c'est open bar, donc... Je suis avec mes potes, je bois normal, quelques pintes, 6-7 quoi. J'arrive dans le fumoir et je vois deux magnifiques pintes bien fraîches, limite avec la buée sur le verre. Donc je suis avec un pote, je me dis bon bah ok, c'est open bar, il y a des gens qui ont oublié les bières. On les boit, je me sens un peu bizarre et je reprends mes esprits dans une voiture que je ne connais pas. Et je me rends compte qu'il y a une autre personne à côté de moi qui met des menottes. Et donc là, je me dis, j'analyse mieux la situation et je me rends compte que en fait, je suis dans une voiture de police qui m'emmène en garde à vue. Les policiers font venir une interprète d'Interpol. Et elle me dit que je viens de rentrer dans la Bibliothèque nationale par effraction, que j'ai passé 3 ou 4 sas de sécurité et qu'on m'a retrouvé allongé, endormi au milieu de débris de verre. Et donc là, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Je dis que je suis innocent et à un moment, je fume une clope avec l'un des policiers. Il me dit Roman, it's you. Et en effet, je fouille dans mes poches et je vois qu'il y a plein de bouts de verre partout, que je suis écorché. Je me dis, bon, là, en fait, je suis vraiment dans la merde. Et il s'est avéré que, bah oui, en fait, il y avait de la drogue dans le verre et que j'ai un peu paniqué parce qu'il y avait beaucoup de neige et qu'il faisait moins 10. Et je suis rentré par effraction pour pas mourir de froid dans la Bibliothèque nationale. Et là où j'ai vraiment peur, c'est quand l'interprète me dit... Bon, vous avez touché un symbole national, donc je pense que demain, on va en parler dans les médias. Et là, je vois la tête de mon grand-père et de mon père qui apprennent ça. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Et donc, dès le lendemain, bah, j'appelle Marco pour lui raconter ça. Et lui, il me dit, bah oui, tout le monde s'est inquiété parce que j'ai fait 48 heures de garde à vue et j'ai pas donné de nouvelles à mes potes.
Et il me raconte que, ouais, bah, du coup, sa mère, si elle est inquiète et tout, il fallait la rassurer et que, voilà, il y avait pas de souci. Mais là, il attendait un jugement pour ça et qu'il avait, lui, aucun souvenir de ce qu'il avait fait, mais qu'apparemment, il y a des images de lui en train de tenir un extincteur et en train de gueuler devant la vitrine. Et il s'est fait attraper par les gardiens, hein, ou la police, je sais pas, mais voilà, il s'est fait attraper derrière et apparemment il a passé un sale quart d'heure, quoi.
Et ma mère essayait de me joindre, Marco a eu ma mère, lui a menti, il a su qu'il fallait pas dire ce qui s'était passé, et je le remercie énormément d'avoir gardé ce petit secret entre nous. Donc après, je reviens à Paris, je continue mes études. On est en 2015. Tout se passe bien. Toujours la même bande de potes, toujours Jessica, toujours Marco. Le 13 novembre, c'est l'anniversaire de ma copine, Jessica. Donc, comme tous les ans, on le fête. On va au bar La Belle Équipe. Donc tout le monde arrive, notre groupe de potes, Marco, je le vois en terrasse, on se tape des bars, on fume des cigarettes ensemble, on s'installe à l'intérieur.
Moi je sais que je suis assis en coin de table à côté de Victor, puis après du coup sur ma gauche il y a tous les lurons qui sont là, puis il y a d'autres personnes qui vont venir. Et là, les filles décident d'aller fumer. C'est à leur tour. Et elles nous proposent qui veut faire une clope. On a la présence d'esprit de pas chauffer pour une deuxième. On se dit, c'est bon, on a quand même bien abusé. On va pas en enchaîner deux, là, comme ça. Du coup, les filles sortent. Et je sais que je suis en train de discuter avec Victor. On avait une conversation. On reprend. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vus. Et j'ai un souvenir de moi en train de me retourner pour suivre où vont les filles, en fait. Je sais pas, un truc peut-être protecteur de savoir où vont les filles. Puis après, je me retourne, on rediscute même pas. Ça doit même pas durer une minute. Et en fait, les premiers coups de feu arrivent.
On se retrouve sous les tables. Je sais que Marco est à côté de moi. Je sais pas s'il est touché.
y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et je pense pas à un seul moment que c'est un attentat. Je me dis peut-être que c'est un règlement de compte. Et au moment où ils rechargent, je suis en train de me dire ils vont rentrer dans le bar, ils vont finir le travail. Je m'attends à des bruits de pas sur du verre et ce sera les derniers bruits que j'aurai dans mon existence, quoi. C'est tout ce que je me dis. Puis après, plus rien. Bon, j'entends une voiture qui part.
Et à la fin de la fusillade, je fais l'appel de mes potes et j'appelle Marco.
Et là, Roman commence à faire le décompte des personnes qui étaient présentes. Et qui commence à dire les noms de chacun. Quand vient mon tour, en fait, il commence à dire Marco. Moi, je réponds pas parce que je suis en pleine réflexion de... Mais en fait, ils sont peut-être là. Ils sont toujours là, les mecs, en fait. Voilà, j'ai décidé de pas répondre. Et là, Roman, en fait, il crie de plus en plus fort mon nom.
Et il me répond, donc je suis rassuré. Quand j'ai fait l'appel, dans sa tête, il disait « Putain, Roman, ferme ta gueule, ferme ta gueule. » Parce qu'il avait peur qu'on se fasse encore tirer dessus. Mais il me l'a indiqué plus tard.
Là, on se relève. Tout était fini, on se relève. Et là, je réalise en fait que Victor, il est inanimé. Avec Thomas, on le prend en charge tout de suite. On l'allonge sur le sol. Thomas qui lui tient la tête. Et moi, j'essaye tant bien que mal de faire ce que je peux. C'est-à-dire pas grand-chose, du coup. Mais on essaie de lui parler, de le maintenir avec nous. J'essaie de voir où est-ce qu'il est touché. Je vois que Roman, Nathan et tous les autres sont partis sur la terrasse pour voir où sont les filles, comment elles vont.
Et après, on va sur la terrasse, on aide ma copine et d'autres blessés. Et c'est Marco, quoi. Il est super, il essaye d'aider tout le monde, il est prévenant.
Je sais pas comment expliquer ça, mais on développe un truc qui est assez dingue, c'est qu'on réfléchit. Enfin, moi, je sais que j'ai un million de pensées à la seconde. Et c'est OK, j'ai vu ça, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire ci, faut faire ça. Et je commence à développer un truc assez protecteur, de me dire, vas-y, là, on s'occupe de Victor avec. Avec Thomas, et faut qu'on essaie de le sortir de là le plus vite possible.
Il essaye d'être utile. À un moment, on pose une perfusion à ma copine, et j'ai eu le temps de rire en voyant sa tête. Moi, j'étais au sol, et le médecin lui dit de tenir fermement la poche, je sais pas quel liquide il y avait dans cette poche. Et Marco, super concentré, je m'en souviens très bien, il presse du plus fort possible... qui peut sur cette poche. Et comme au collège, je souris, je rigole et je me dis ça c'est vraiment Marco, quoi.
On fait en sorte d'être au maximum avec nos copines, vraiment. On sait même pas ce qui se passe, faut juste être au taquet, simplement. C'est il y a pas de réflexion.
Donc on attend les secours, Marco est toujours là, je suis avec lui. Il a été super, il est super.
Plus tard, je rejoins tout le monde, Roman, à la Pitié-Salpêtrière, du coup, pour savoir ce qu'en était Jess.
Je suis tellement content de le retrouver, je le serre dans mes bras, et une dynamique se remet en route, comme au collège, on essaie de détendre l'atmosphère, de rigoler. C'est très bizarre à dire, mais on a réussi à rigoler.
On se retrouve à un moment donné, en fait, avec Roman, à décider de prendre un moment tous les deux, 5 minutes à part, tous les deux, au loin des gens, même de nos potes avec qui on a vécu le truc. Mais juste, on avait besoin de notre moment à deux. On décide de fumer une clope. On est en train de refaire une sorte de débrief assez rapide de ce qui vient de se passer pour essayer de comprendre, en fait. Et puis... on se dit aussi la vérité. Enfin, moi, je sais que je raconte ce que j'ai vu par rapport à Victor tout de suite parce que c'était en train de me ronger, c'était pas possible.
c'est une dynamique qu'on a ensemble, mais on se ment pas. Il me dit ce qu'il a vu, il me dit ce qu'il a ressenti, ce qu'il pense des blessés. Alors qu'il le dit pas forcément aux autres, il me le dit à moi, je l'écoute. Et on s'est rien caché de ce qu'on a vu et comment on ressentait les choses.
Et ouais, on était en train d'essayer de comprendre en fait ce qui est en train de nous arriver en fait. Qu'est-ce qui nous arrive en fait? C'est quoi ce truc? Pourquoi on nous choisit de nous en fait? C'est quoi ce truc? Et on est froid à ce moment-là dans nos propos. C'est limite si on n'est pas des militaires en fait qui discutent. C'est ça. Il y a peut-être des fois des blagues qui ressortent, mais c'est à mon avis pour essayer de détendre l'atmosphère. Mais c'est ce moment-là, voilà. On a besoin de ce moment-là pour essayer de débriefer parce que on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on va devenir fou.
Cet épisode de Passage a été tourné, monté et réalisé par Antoine Bonnet. Le studio La Fugitive a fait le mix. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.